Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on invoque l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui instruis le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Voilà, on est dans le thème. Hein, hier, on fêtait la grande solennité, l'Immaculée Conception. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler le charisme ou est-ce que tout le monde, c'est clair pour tout le monde, la garde d'honneur, l'heure de présence, ça va pour les nouveaux visages, c'est bon, vous n'avez pas besoin? Non, très bien. Alors, on continue aujourd'hui comme je l'ai déjà fait sur plusieurs formations. Donc, nous parlions de l'abîme d'humilité. L'abîme, c'est le cœur de Jésus. C'est une expression que Sainte Marguerite prend pour ses novices, pour les enseigner. Et nous sommes tous des novices aussi. Et devant les mouvements de notre orgueil, elle nous invite donc du coup à aller voir du côté du cœur de Jésus pour aller prendre son humilité et nous l'appliquer. Mais il m'avait semblé bon, parce qu'on en parle beaucoup de l'orgueil, mais au final... Qui est-il exactement? Donc on est parti, pour faire un petit rappel pour ceux qui prennent la formation en route, eh bien on est parti du péché de Lucifer pour en arriver au péché originel, qui est une copie collée, on n'a pas trop innové nous autres, et nos premiers parents, mais il s'avère que si les premiers parents ont péché, nous on est blessés, hein, l'humanité qu'ils ont engendré, on va dire, est marqué par ce péché originel. Et du coup, on est fragilisé dans notre volonté, dans les trois facultés de l'âme, donc l'intelligence, la volonté et la raison. Du coup, c'est pour ça que sans la grâce, on ne peut pas arriver à la perfection. On n'est pas sanctifié comme ils étaient, nos premiers parents, de cette nature intègre qu'ils bénéficiaient. Et nous, on a perdu, hein, perdu. On a gagné le Sauveur. Hein. C'est pour ça que Dieu donne à l'humanité le salut à travers son Fils. Et du coup, on avait vu donc justement l'orgueil, et la dernière fois évoqué cet orgueil à partir d'écrits du Père Garrigou Lagrange. Et aujourd'hui, je vais continuer avec deux classifications pour en arriver, j'espère, parce que c'est la dernière de l'année, le remède, parce qu'il y a deux purifications, la purification qu'on va vivre par les situations qui sont l'autre quotidien, hein, et est-ce qu'il faut fuir ces occasions, et puis la purification qu'on va pas chercher, hein, qui va s'appliquer par Dieu même, on va dire. Donc il y a la purification active et passive. Alors aujourd'hui, ces deux classifications, il y en a une qui est présentée par Saint Grégoire et qui dit qu'il énumère plusieurs degrés de l'orgueil. Croire que l'on a par soi-même ce qu'on a reçu de Dieu. Hein. Ça, on est tous un petit peu concernés, on a tendance à s'approprier, enfin se mettre à l'origine, hein, de ce bien, de ces dons. Croire qu'on a mérité ce qu'on a gratuitement reçu. S'attribuer un bien qu'on n'a pas, par exemple une grande science, alors qu'on ne la possède point. Vouloir être préféré aux autres et les déprécier. Nous reconnaissons bien en théorie, ça on le sait bien, hein, que tout nous vient de Dieu, on a été créé, souvent on entend on est misère, notre saint fondateur y ajoute, laissez le prochain vous dire que vous êtes zéro plus que zéro. En général, on est piqué et on dit bah, comment ça se fait, parlez-moi avec plus de délicatesse, plus de retenue. Donc en somme, on est souvent... pas très ajusté à cette reconnaissance d'être misère, d'être la misère. Qu'il est lui seul est grand et que l'obéissance lui est due, mais en pratique, il nous arrive de nous estimer démesurément comme si nous étions l'auteur des qualités qui nous sont données. Il nous arrive aussi de nous y complaire en oubliant notre dépendance. Hein, et on avait vu que ça, c'était le péché, on va dire l'origine du péché de Lucifer, comme le péché de l'homme, nos premiers parents, c'était de ne pas dépendre du don que Dieu voulait leur faire pour les élever à une plus grande, intelligence. Il n'est pas rare de trouver une sorte de pélagianisme. Alors Pélage est un moine breton du 5e siècle qui voulait assurer son salut par ses seuls mérites. Voilà, aujourd'hui on ne veut pas dépendre du sauveur. Hein. C'est moi qui suis le maître. Hein. Tout ça en théorie, on le sait, on va dire intellectuellement, mais quand il s'agit de bénéficier par exemple du sacrement de pénitence, parce qu'on en a besoin pour se réconcilier avec Dieu et avec ses frères, eh bien on n'a pas de file d'attente, on va dire, devant les confessionnaux. Du coup on ne se sauve pas autrement, et voilà, donc en somme on est à l'origine de son propre salut. On n'a pas besoin de la grâce, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin des sacrements. Alors on exagère ses qualités personnelles en fermant les yeux sur ses défauts. Voilà. Par contre, on voit ceux du prochain en général. Et l'on finit même par se prévaloir comme d'une qualité de ce qui est une déviation de l'esprit. Hein, on l'avait dit, on va le redire, cet orgueil nous rend aveugles sur la vérité, sur nous-mêmes et sur les autres. Ce qui est dangereux en somme pour notre chemin de perfection, parce qu'on peut être persuadé de faire bien et de dire avec justesse la vérité, alors qu'on fait compte notre orgueil nous a voilé cette vérité qui est Dieu, et d'un péché on dira que c'en est plus, hein, alors que la Sainte Église, le magistère continue d'enseigner que c'est péché. Mais pour se sentir à l'aise dans cette vérité, la conscience est faussée. Hein. On croit par exemple avoir l'esprit large parce que l'on fait peu de cas des petits devoirs quotidiens. Alors on peut l'appliquer aussi à... un mot à la mode, tolérant. Hein. Et du coup, on excuse tout. Hein. Cette excuse, en fait, c'est pour toujours se dédouaner de sa responsabilité devant Dieu et justement de sa responsabilité à changer. Il faut commencer par l'être dans les petites choses, car la journée se compose d'heures, l'heure de minutes et la minute de secondes. Nous, on dit à la visitation, la fidélité aux petites choses est une grande chose. Et c'est par cette fidélité à nos devoirs quotidiens, ça nous use. Hein, c'est par exemple les mères de famille, celles qui tiennent la maison, le savent. Hein, tous les jours, on mange trois fois le jour. Et quand on a fini, il faut remettre ça. Eh bien, cette usure, hein, on voit cette disponibilité intérieure, cette générosité à recommencer des tâches qui sont toutes simples. Et en général, quand on est un peu orgueilleux, eh bien, on attend d'être reconnu dans ses tâches. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, messieurs, redire à votre femme que c'était bon et que la maison, elle est propre. De temps en temps, ça fait du bien, nos encouragements. Hein. Mais la gratuité dans le don, hein, montre justement une âme humble qui n'attend rien, parce qu'en fait, compte, elle le fait pour Dieu. Elle ne le fait pas pour être reconnue ou pour recevoir un compliment. Donc c'est vrai que si on s'aigrit parce qu'on fait les choses, justement, on n'est pas reconnu et rejoint dans notre attente, eh bien là, on peut percevoir dans notre examen de conscience qu'on nourrit intérieurement de l'orgueil. Mais ça peut, je parle des femmes, des maîtresses de maison, mais voilà, quand on a des responsabilités dans un travail, eh bien voilà, est-ce que je le fais pour Dieu et j'attends rien en retour, si ce n'est sa gloire, ou est-ce que j'attends au moins soit une augmentation, mais même une augmentation, hein, ça doit être gratuit, on ne doit pas faire son travail en vue d'être mieux payé ou d'être reconnu. Alors ces fautes d'orgueil souvent véniels peuvent devenir mortelles si elles nous poussent à des actes gravement répréhensibles. Hein. Tout dépend si on s'arrête. Malheureusement, il y en a aujourd'hui qui la violence a une telle monte de plus en plus. Et aujourd'hui, quand on dit quelque chose, c'est pas juste verbal. On n'a plus peur de sortir l'arme pour se faire comprendre. Hein. Alors, donc je parlais de cette première classification de Saint Grégoire. Donc lui, il énumère ça en fonction de ce qu'on croit posséder qui nous appartient, alors que c'est Dieu qui nous les donne. Et Saint Bernard lui énumère avec plusieurs manifestations progressives de l'orgueil. Et c'est comme ça qu'il va énumérer sa deuxième classification, qui va être aussi éclairante. C'est donc la curiosité, la légèreté d'esprit, la joie sotte et déplacée, la jactance, donc c'est la hardiesse, hein, à se vanter, à se faire valoir. On aime bien parler de soi. La singularité, on ne fait jamais les choses comme les autres. L'arrogance, la présomption, donc là on n'est encore pas dans la vérité. Le refus de reconnaître ses torts, comme si on allait perdre quelque chose. Et la dissimulation de ses fautes en confession. La rébellion, toujours dans l'excuse, toujours dans la justification. La liberté effrénée. Hein, aujourd'hui, dans notre monde, pour plaire, hein, on vous dit « faites ce que vous voulez ». En général, ça, c'est sûr que ça passe mieux. Hein. À des enfants, quand on les éduque, on ne met aucun interdit. C'est sûr que vous allez être aimé. Et encore, j'en suis pas si sûre, parce qu'au final, ils se rendent bien compte que de faire tout et n'importe quoi, c'est pas l'amour. Mais voilà, et derrière, on fait compte, c'est de l'orgueil. Hein. L'habitude du péché jusqu'au mépris de Dieu. On finit par plus, après, avoir de barrières, en somme. Hein. Donc on peut considérer aussi les différentes formes de l'orgueil par rapport aux différents biens, suivant qu'on s'enorgueillit de sa naissance, de sa richesse, de ses qualités physiques. Voilà, on est fort, on est grand, aujourd'hui on exalte le corps, la santé, hein. De sa science, voilà, j'ai un niveau intellectuel, c'est classique, hein, aujourd'hui on est reconnu à travers sa profession, hein, mais pas parce que vous êtes enfant de Dieu et que voilà, vous avez une famille, même aujourd'hui quand vous dites que vous avez 5-6 enfants, on vous regarde de travers en disant mais ils sont pas normaux ceux-là, hein, de plus en plus, la différence. Il y a aussi les qualités de sa piété. Hein. Souvent dans les groupes de prière, on rencontre ça. Et on est tous réunis pour la prière. Et on fait compte, c'est à qui priera le mieux. Mais en fonction de son propre discernement. Voilà. Alors tout ce qui est charismatique, moi je trouve ça m'attriste quand on nous confie dans un groupe de prière qu'il y a de la jalousie. En fonction des charges des uns et des autres, parce qu'on est reconnu berger ou animateur, et du coup on a de l'importance en fonction de son charisme, en fonction de ce qu'on est capable de donner dans la prière, alors que la prière est au service de l'humilité. Vous voyez, les pièges dans lesquels on peut tomber, tout en voulant bien faire, bien entendu. Hein. Alors l'orgueil. Du coup, à travers ces deux classifications, je vais faire ressortir trois orgueils dont on parle pas souvent. On va dire l'orgueil intellectuel. Alors, portent certains hommes d'études à ne pas accepter l'interprétation traditionnelle des dogmes, à les atténuer ou à les déformer pour les harmoniser avec ce qu'ils appellent les exigences de l'esprit. Alors, c'est très à la mode. En plus, avec hier, la solennité de l'Immaculée Conception, aujourd'hui, moi c'est mon avis, Marie n'a pas en tout cas dans l'Église, sa vraie place. Hein. Dans le sens où plus on s'éloigne, pour moi, plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de Marie. Et comme on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la mère, hein, de notre mère. Et aujourd'hui, quand on entend, soit dans des livres contemporains ou à certaines homilies, que Marie est une femme comme toutes les femmes, c'est une hérésie. Et son immaculée conception fait qu'elle n'a pas été marquée par le péché originel. Donc, elle est pleine de grâce. Marie aurait pu dire non. Ben non, c'est une hérésie. Marie ne peut pas dire non, elle est oui, parce qu'elle est pleine de grâce. Et aujourd'hui, on va dire l'hérésie qui est hallucinante pour moi, c'est que pour nous la rendre plus proche, on la fait une d'entre nous, comme si elle était comme nous. En somme, on l'éloigne de nous en la rendant identique à nous. C'est l'inverse. Si elle est l'Immaculée, elle possède les mêmes attributs, les saints vous disent ça, hein. Elle possède les mêmes attributs de Dieu. Par contre, elle n'en est pas à l'origine. Voilà, c'est simplement ça. Alors, quand vous avez une mère qui a les mêmes attributs de Jésus, on est quand même, enfin, idiot, on va dire, orgueilleux de ne pas s'adresser à elle pour lui demander des grâces. Par contre, si vous la faites comme moi, pécheresse, limitée, fragile, je comprends que vous n'allez pas lui demander des grâces. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous donne? Elle vous est identique. Vous voyez l'hérésie, hein? L'enjeu qu'il y a derrière. Hein? On nous éloigne de notre mère, hein? En nous voulant la rendre plus proche. Et ça, c'est le jeu, l'orgueil intellectuel, hein, de modifier l'interprétation des dogmes. Voilà. Il faut, et ça c'est les saints qui vous disent ça, les pères de l'Église par exemple, c'est impossible de faire rentrer la compréhension de Dieu et de sa mère dans notre tête. On ne peut pas comprendre Dieu à partir de notre tête. Il faut accepter qu'on n'arrivera jamais à comprendre Dieu. Sinon, c'est mettre la main dessus, mettre la main sur quelqu'un, c'est le posséder, c'est de l'orgueil. On en fait donc ce qu'on veut. D'où l'orgueil intellectuel, comprendre tout à partir de soi. Un mystère qui est Dieu, c'est quoi la définition du mystère? C'est un trop-plein de lumière. Pourquoi on ne veut pas se laisser éblouir? Il faut être humble, en somme. Accepter qu'on ne comprenne pas tout. Aujourd'hui, vous avez tout au bout du doigt, hein, ces fameuses tablettes-là, hein, et on vous donne l'illusion d'avoir le monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos tablettes. Enfin, c'est ce qu'on vous fait croire, parce que c'est fou, à vrai dire. Hein. Je vais vous dire, moi, ce qu'on nous dit, oh, vous faites un clic, vous allez là, etc., ça marche, etc. Oh, c'est pas toujours comme ça, hein, ça marche pas toujours. Hein. Mon rigolant, je dis un clic, oui, deux claques. En général, ça prend un temps fou. Et on perd beaucoup, beaucoup de temps. Alors que quand on sort un livre, tac, on va à telle page, on regarde le sommaire, on voit le chapitre, là. Non, moi je gagne du temps. En plus, la lecture sur un écran abîme les yeux. Le cerveau n'utilise pas ces mêmes capacités que si on lit une feuille. Tout ça, on ne vous dit pas tout ça. Hein. Mais c'est quand même une réalité. Donc voilà le péché intellectuel. Alors ça bien entendu, hein, ça ne... Enfin là, je donne un exemple parce que en prononçant la formation dans ma prière, hier, on va dire, c'était en tout cas fort au niveau du mystère de la solennité de Marie, hein, de son Immaculée, de ce péché d'orgueil, de vouloir faire le tour, de posséder notre mère. Il faut nous laisser posséder par Dieu, dans le bon sens du terme. Et c'est ça qui fera que vos vies seront merveilleuses. Hein. Ce ne sera jamais une habitude, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Vous n'aurez jamais fini, hein, de l'aimer. Mais ça ne s'est pas réservé uniquement aux théologiens, même s'il faut bien entendu prier pour eux. Hein. Nous aussi, on peut tomber dans ce travers de ne pas écouter notre prochain qui a quelque chose à nous apporter dans une connaissance quelconque, que ce soit même à faire une recette de cuisine. Je sais tout, j'ai pas besoin de recevoir. Hein. Voilà, toujours on part de soi. Voilà, pour le péché intellectuel. Et du coup, le père Lagrange rajoute hein, que ces personnes qui sont dans le péché intellectuel, comme ils sont en général, on est imbu nous-mêmes, parce qu'on est persuadé d'avoir la vérité par soi, eh bien, on n'est plus en capacité hein, de recevoir, nous sommes, on est plein de soi, et on n'est plus en capacité de recevoir la grâce, les lumières qui nous sont faites à l'horizon. Donc, en plus, on va dire, c'est, il faut bien avouer, hein, le péché d'orgueil intellectuel, il est quand même gratiné, parce que, si vous me permettez l'expression, parce que, comme on se met à l'origine de l'explication du mystère, eh bien, Dieu ne peut plus se donner, parce qu'on est, on ne laisse plus l'espace, on habite tout l'espace. Et du coup, Dieu, bah, il est là, à la porte, il ne demande pas mieux que vous éclairer sur votre erreur, mais vous ne pouvez plus l'accueillir parce que vous vous mettez à l'origine. Hein. C'est beaucoup plus que, comme péché, beaucoup plus grave pour notre vie intérieure, notre vie spirituelle, que de se dire « je suis le plus beau et le plus fort hein. ». C'est pas du tout, en tout cas sur la vie spirituelle, on sent vraiment une âme qui se coupe de la lumière, et quand on se coupe de la lumière, ben on se met dans les ténèbres, et puis là, comme on dit, on pêche dans les ténèbres, donc on est complètement aveuglé, hein, et on s'enferme dans ce fonctionnement. Parce que pour moi, la vraie définition de l'humilité, c'est l'effacement vis-à-vis de soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'existe plus par soi-même, on existe à partir de Dieu. C'est qu'on n'est plus sur un retour sur soi, on n'est plus, l'être a disparu, il est assimilé à Dieu. Et ça, c'est l'humilité. Hein. Et par contre, quand vous êtes à l'origine de toute explication, l'espace dans votre cœur, il est occupé. Et c'est vous qui êtes l'acteur, attention, l'acteur de votre propre vie. Dieu ne peut plus rien vous dire. Donc, plus d'indications à droite et à gauche. Voilà, une lettre de charité, tu fais bien, tu fais mal, voilà. Et là, on est bien, la conscience est obscurcie. Voilà. Alors, l'orgueil spirituel n'est pas un moindre obstacle. Saint Jean de la Croix l'a noté dans la nuit obscure à propos des commençants. À raison, dit-il, de leur état d'imperfection, ils trouvent dans leur ferveur même une source secrète d'orgueil, car ils finissent par se complaire dans leurs œuvres et s'estimer eux-mêmes. C'est pourquoi on les entend parfois en conversation montrer une vanité choquante en agitant des questions de spiritualité. Ils se mêlent de donner des leçons plutôt que d'en apprendre, d'en recevoir. Ils condamnent dans leur cœur ceux qui ne comprennent pas la dévotion à leur manière. Et l'on croirait entendre le pharisien qui pensait louer Dieu en se vantant de ses œuvres et en méprisant le publicain. Ils voient le fétu dans l'œil de leur frère et non pas la poutre dans le leur. Voilà. Alors c'est sûr, ça concerne plus et encore, pas tout à fait, ceux qui ont charge d'âme, ceux qui conduisent, hein, des pères de famille, enfin des parents qui éduquent, mais ça peut être aussi un chef d'entreprise. Lorsqu'il arrive que leur maître spirituel, donc le confesseur, le directeur spirituel, n'approuve ni leur esprit ni leur agissement, ils décident que ces maîtres ne comprennent pas leur esprit et ne sont pas spirituels. Ils se singularisent par des démonstrations extérieures, mouvements, soupirs, attitudes étranges. Le grand nombre recherche les bonnes grâces et l'intimité du confesseur, ce qui est une source de jalousie et d'inquiétude. On arrive à ne plus oser déclarer simplement ses péchés de peur de se rabaisser et on finit par s'excuser au lieu de s'accuser. Il y a aussi un confesseur, et ça on le rencontre, spécial pour les mauvais cas et l'autre restant réservé à la confidence exclusive du bien. En fait, quand on n'a pas entendu ce qu'on voulait entendre d'une personne, eh ben on change. Voilà. Et on se justifie en disant... Ben, il ne comprend pas. Voilà. Nous, dans la vie spirituelle, dans la vie monastique, c'est très présent. Hein. Une supérieure qui contredit, par exemple, une demande d'une sœur, en général, c'est « ma mère, vous ne comprenez pas hein. ». Non, c'est... et là, c'est pour tout le monde. c'est on veut entendre ce qu'on... On n'entend pas ce qu'on veut entendre. Donc du coup, on s'en va. Voilà. Et on se justifie tant qu'à faire pour garder la tête haute. Hein. Parce que sinon, on n'est pas très à l'aise dans nos baskets à ce moment-là. Mais voilà, si on adapte ça, c'est pareil dans la vie d'un couple, dans une famille, avec les enfants. Des fois, ça ne fait pas toujours. Ben, j'aimerais qu'il me dise oui. Mince, il me dit non. Voilà. Est-ce que je pointe le doigt du côté de mon conjoint, de mon mari, ou est-ce que je me dis, tiens, Jésus veut me dire quelque chose. Si on croit que tout est providence et tout est conduit par Dieu, donc toutes les paroles qui me sont dites, Dieu veut que je les entende. Même les vilaines. Voilà. Quelle attitude j'opte. Voyez. Alors voilà, les défauts après qui naissent de l'orgueil. Ce qui va permettre justement de savoir à quel moment, enfin quand on est justement à travers dans ces défauts, si on se reconnaît, on dit bah tiens, ça je l'avais pas vu. Alors les défauts qui naissent hein, de cet orgueil sont la présomption, l'ambition et la vaine gloire. La présomption est le désir et l'espoir désordonné de faire des choses au-delà de ses forces. Voilà. Ça peut être des forces physiques, mais ça peut être aussi des forces intellectuelles et même forces morales. Voilà. Il faut des fois de l'humilité pour dire non à un service qui nous est demandé. Oui, mais si je dis oui... Ah, je vais être aimée, je vais être estimée, je vais être reconnue, je vais avoir du poids dans la famille, etc. Et évidemment, si je dis non parce que je sais que j'en suis pas capable, je reste petit à mes yeux et aux yeux des autres. Et c'est ça l'humilité. On se croit capable d'étudier et de résoudre les plus difficiles questions. Quand on voit nos jeunes hein, qui... c'est entre autres tout un système, on ne cherche pas à accuser qui que ce soit, mais quand on voit nos jeunes qu'on laisse assis sur les bancs d'université sans leur faire apprendre un métier qui les épanouirait, mais on les fait leur fait croire que plus on passe de temps à l'université, plus on est intelligent. Il y a un moment, il faut passer, on va dire, la seconde, hein, et puis en venir à la pratique. Hein, et là aussi, il y a de l'orgueil de la part de la société. Là aussi, c'est leur mentir. Hein. On tranche avec précipitation, donc on est toujours dans la présomption, avec précipitation les problèmes les plus ardus. Voilà, parce qu'on est au-dessus, on s'estime capable. Hein. Parce que prendre du temps pour la réflexion, c'est perçu pour celui qui est présomptueux comme une faiblesse, alors que c'est sagesse. Hein. Rappelez-vous l'évangile, il faut s'asseoir, regarder si on est capable de mener le travail jusqu'au bout, est-ce qu'on a les moyens matériels, etc. La précipitation dans la vie spirituelle est danger. On s'imagine qu'on a assez de lumière pour se conduire sans consulter un directeur. On ne demandera pas d'avis, en général, parce qu'on se suffit à soi-même. Au lieu de bâtir sa vie intérieure sur l'humilité, le renoncement, la fidélité au devoir de la minute présente jusque dans les petites choses, on parle surtout de magnanimité. Et on avait vu que c'était l'indulgence. Hein. De zèle apostolique. Ou bien on aspire très vite au degré élevé de l'horizon. Donc ça, le père Garrigou parle plus pour les spirituels aussi. Mais voilà, on ne se contente pas, on est toujours découragé de son horizon. Parce qu'on est capable normalement de faire l'horizon comme la grande Sainte Thérèse, s'il vous plaît. Donc du coup, le fait de passer toute sa demi-heure à partir et à revenir, et je vois des sourires qui apparaissent sur les lèvres, mais c'est ça en somme. Hein. Et oui, aujourd'hui ça a été dur. Hein, j'étais tout le temps occupée avec je sais pas quoi, avec des soucis, j'ai pas réussi à me recueillir. Bah, Jésus, tu as voulu ça pour moi aujourd'hui. Elle est bien plus grande cette horizon, parce que là, du coup, c'est clair que ça me met bien dans l'humilité. Hein. Par contre, quand je lis les livres, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ces horizons voilà, d'extase hors de soi, hein, d'être complètement prise par le recueillement, etc. Bah oui, mais peut-être que j'en aurai jamais. Donc c'est voilà, c'est vouloir toujours désirer quelque chose qui nous sera jamais donné, en somme. Hein. Donc là, on sort encore de la vérité sur soi. Voilà, ça nous sort, comme il dit, hein, d'une volonté encore faible. Donc on brûle les étapes. Voilà, accepter, ça c'est l'humble, hein, de mettre un pied devant l'autre. On ne peut pas arriver au but sans passer par toutes les étapes de la purification, que ce soit pour l'horizon, mais même pour un travail, hein, qu'on nous confie, on voudrait déjà être arrivé à la fin, sans pâtir avec la fatigue, le temps qui va nous être nécessaire, la durée. Hein. On est très influencé par notre monde, hein. On appuie sur le bouton, hop, tout marche. On a tout au bout du doigt, comme je le disais. Non, aujourd'hui, c'est l'humilité, on va la retrouver dans ces gens qui sont capables d'envisager un travail sur plusieurs années. Je repeins ma maison, je mettrai le temps. Ah ben, il faut tout de suite que ce soit prêt, tout de suite terminé. Ben non, ça en renvoie à l'humilité. Ben, c'est dur de voir que ça ne se fait pas comme je l'avais imaginé dans ma tête. Hein. Dans notre tête, en général, ça va beaucoup plus vite. Hein. On a en somme évité dans notre tête tous les soucis de réalisation. Voilà. Là, on est ramené à l'humilité. Hein. Et c'est bon pour notre orgueil. Alors de là dérive l'ambition sous telle ou telle forme du fait qu'on présume trop de ses forces et qu'on se juge supérieur aux autres. Et on veut les dominer, leur imposer ses propres idées en matière de doctrine ou les gouverner. Voilà, alors c'est pas uniquement pour le chef d'entreprise ou la mère supérieure d'une communauté, hein, ça peut être pour un père avec ses enfants, hein, ou avec sa femme, ou une femme avec son mari. Saint Thomas dit que l'ambition se manifeste, Saint Thomas d'Aquin dit que l'ambition se manifeste en ce qu'on recherche les fonctions d'éclat, qu'on ne mérite pas, en ce qu'on les recherche pour soi-même et non pour la gloire de Dieu, ni pour le bien des autres. Que de secrètes sollicitations, d'intrigues inspirées dans tous les milieux par l'ambition. Moi, j'ai un petit secret. Voilà, quand on me demande quelque chose, je sais si comment dirais-je, il y avait de l'orgueil dans la mesure où si j'attends quelque chose, si j'attends un remerciement et j'en ai pas, et que là je m'attriste, parce qu'en général l'orgueil, hein, quand on est piqué dans son orgueil, on dit, hein, ça nous attriste intérieurement, on perd sa joie. Hein. Et là je sais que si dans mon service j'étais intéressée, hein, il y avait donc de l'ambition d'être connue, et bien du coup ça me blesse mon amour propre. Et du coup, je suis triste. Et là, je me dis, bah, tu n'es qu'une orgueilleuse. Tu ne le savais pas, bah, je te le redis. Voilà. Moi, là aussi, c'est une de mes méthodes dans ma vie spirituelle. La vérité rend libre. Hein. Donc, quand je sais que je suis dans un mouvement d'orgueil, j'aime bien me le rappeler. Voilà. Et du coup, bas les masques, hein. Ça ne sert à rien de se dire « Non, non, c'est parce que tu es fatiguée, parce que tu es surmenée, c'est pour ça que tu as réagi comme ça. » Non, tu n'es qu'une orgueilleuse. On est tous des orgueilleux parce qu'on tient ça en commun avec nos premiers parents. Donc, c'est pas la peine de se mentir. Voyez. Et il y a un élément, hein, comme ça dans ce qu'on fait. Est-ce que tu attends quelque chose? Tu es déçu, mais tu es déçu parce qu'on ne t'a pas reconnu. Mais pour qui tu faisais le travail? Pour toi? Pour Dieu, voilà. Les serviteurs inutiles, dit le Seigneur. Hein. Alors on le dit tous, oh ben moi je rends service, c'est bien, bien, c'est, voilà, j'attends rien. Ben quand même, on pourrait me dire merci, quoi. Voilà. Hein, ça, bien sûr, on ne le dit pas tous, hein, bien sûr, hein, mais attendez, on le dit tout bas, ça quand même. Hein. Voilà. Mais ça, c'est des murmures qui sont à l'origine du péché de l'orgueil et qui nous font malheureusement aller un petit peu plus loin la fois suivante. Hein, du coup, on portera un jugement après. On a ce petit murmure intérieur, et quand la personne se représentera pour un service, oh ben non, parce que la dernière fois, il faut voir comment on m'a reçu ou comment j'ai été remerciée. Hein, voyez ? Mais moi, je vous dis, je me dis à moi, parce que dans ma communauté, ça fonctionne qu'avec le service. Hein, c'est, on n'attend rien, quoi. Et il ne faut rien attendre si ce n'est de faire plaisir à Jésus, le bon plaisir de Dieu. Ça, c'est la visitation. Qui on sert quand on sert le prochain? Voilà. Qui on veut consoler quand on est garde d'honneur? Voilà. Pour qu'on m'aime? Voilà. Non, pour que Jésus m'aime. Voilà. Donc je le fais gratuitement, je le fais uniquement par amour et je prends la charité de Dieu pour le faire. Et puis alors là, la cerise sur le gâteau, c'est la dernière, c'est la vaine gloire. Voilà. L'orgueil porte aussi à la vaine gloire, c'est-à-dire vouloir être estimé pour soi-même, sans renvoyer cet honneur à Dieu, source de tout bien, et souvent à vouloir être estimé pour des choses vaines. C'est le cas du pendant qui aime à faire étalage de science, en s'astreignant et en voulant astreindre les autres à des minuties. Voilà, on exige des autres. Voilà, donc cette vaine gloire, hein, c'est arrêté à soi, hein, c'est pour soi. Voilà. Alors souvent, hein, quand on est là-dedans, bien sûr qu'intérieurement on dit c'est pour Jésus, non, c'est pour Jésus, quoi. C'est pas moi qui ai fait. Voilà. Moi, je dois vous donner un petit exemple qui m'a toujours un peu. Vis-à-vis duquel j'ai jamais cru, on va dire. Parce qu'à la lumière du témoignage de nos saints fondateurs ne supportait pas qu'on lui dise, qu'on lui fasse des honneurs. Voilà. Dès qu'on lui déroulait le tapis rouge, il ne le supportait pas. Il savait, hein, le jeu de cette vaine gloire. On est tous, quand on nous dit « Oh, merci pour tout ce que vous m'avez dit, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Oh non, non, vous, non, non, en général, par politesse, on dit « Non, 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 ben, non, c'est bien normal, c'est... Non, 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 je l'ai fait bien. » Ça fait quelque chose au fond du cœur, ça nous chatouille. « Ah, j'ai de l'importance pour elle, ben, je suis quand même quelqu'un. Ben, » oui, comme si vous ne le savez pas, je te le dis. C'est... Voilà, ça chatouille, ça fait du bien. Et quand on a entendu, enfin, par le passé, on entendait des fondateurs de communautés qui faisaient des belles homélies, et donc on se passe les cassettes, etc. Et puis on en fait des, on les met sur un piédestal, hein, et on plie le genou devant. Hein, on ne leur rend pas service. Voilà. Non, 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 c'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu qui parle, mais leur dire, eux-mêmes qui disent « ça me fait rien », on entend ça, « ça me fait rien qu'on me le dise », c'est du mensonge. J'aimerais bien qu'on me dise, à part l'Immaculée Conception, qui est justement sans tâche, du coup sans accroche de toutes ces qualités qu'on peut nous faire, elle lui aura pas de prise, parce qu'il n'y a pas de péché. Il n'y a que la personne qui est pécherait, donc qui est touché par le péché originel, à qui on va faire à qui on va dire vous êtes la meilleure, ça va faire quelque chose. Vous voyez la prise, hein, qu'il peut y avoir, c'est sur le péché originel. Donc, à part l'Immaculée, jusqu'à maintenant, en tout cas dans mon catéchisme, il n'y a personne d'autre qui est sans péché, à part Dieu, bien entendu. Donc, quand on rend pas service et on force l'autre et soi-même à tomber dans le péché de la vaine gloire, quand on fait justement toutes ces ovations, parce qu'il nous a fait quelque chose, il nous a rendu un service, il a bien parlé, etc. Non, c'est merci, action de grâce, on rend à Dieu ce qu'il nous a donné, d'accord? Mais là, il y a le jeu justement des politesses, hein, et la vraie politesse, c'est de rendre à Dieu ce qu'on a reçu. Voilà. Et on est des êtres d'action de grâce comme ça. Vous voyez ? Et dans le monde chrétien, ça devrait l'être. Alors maintenant, comment guérir de l'orgueil ? Et donc, là, le père Garrigou Lagrange dit, c'est très simple, le grand remède de l'orgueil est de reconnaître pratiquement la grandeur de Dieu. Voilà, parce que c'est à travers lui, c'est à partir de lui qu'on va se comprendre. Hein. Et comme il est l'humilité personnifiée, comme le dit l'archange Saint-Michel, qui est comme Dieu, lui seul est grand, il est à la source de tout bien naturel et surnaturel. Sans moi, dit notre Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Alors quand Jésus dit « sans moi », c'est pas, ça veut dire « j'ai besoin de faire ma prière pour demander l'aide de Dieu », c'est ça, mais c'est surtout pas que ça. C'est-à-dire sans la grâce divine, la grâce sanctifiante, vous ne pouvez rien faire. La grâce, la vie divine est ontologique. Elle est liée à notre nature. C'est-à-dire que si vous vous privez, on va dire, de cette grâce, de cette source qu'on reçoit à l'Eucharistie, la vie divine, donc au baptême et après les continuer hein, d'être, on va dire, déployés dans votre être à l'Eucharistie, par le péché, vous ne pouvez plus à rien faire. Voyez, vous ne pouvez plus à rien voir. Hein. Voilà, c'est l'enjeu, on va dire, de tout reconnaître venant de Dieu. Et du coup, l'Écriture, saint Paul dit, « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Hein, donc quand on a une qualité, un don, hein, à chaque fois, ça peut être un don d'écoute, un don de travail bien fait, il te vient de qui? Et saint Thomas dit aussi, comme l'amour de Dieu pour nous est cause de tout bien, nul ne serait meilleur qu'un autre s'il n'était plus aimé que Dieu. Et alors, pourquoi nous glorifier du bien naturel ou surnaturel qui est en nous, comme si nous ne l'avions pas reçu, comme si nous appartenions en propre, et n'était pas ordonné à glorifier Dieu, source de tout bien? Et ça, c'est une prise de conscience, c'est une grâce à demander. Hein, de tous les jours dans sa prière, Dieu, fais-moi sentir, comprendre que là, ce matin, si je suis capable de me lever, c'est une grâce qui m'est faite. Ça vient pas parce que j'ai une bonne santé ou que j'ai bien dormi. Même j'ai bien dormi, ça vient de Dieu. Hein? Ceux qui dorment mal, je veux vous dire, ils le savent que ça vient, que c'est une grâce. Hein? Donc tout ce qui nous est, tout ce qui nous est donné pour servir Dieu devrait normalement retourner à Dieu. Et nous, on arrête au passage et on s'en sert. Voilà. Et pour se sentir à l'aise, on dit qu'on en est à l'origine. Voilà. Parce que ça nous met à l'aise, voilà. Avec nous-mêmes, bien sûr. Alors, le remède à l'orgueil est aussi de nous dire qu'il y a en nous quelque chose d'inférieur au néant lui-même. Voilà. Donc déjà, on est rien. Si Dieu cessait de nous aimer, il n'y a plus de sœur devant vous. Hein. Vous pourrez déjà mesurer que c'est son amour qui me fait exister. Voilà, qui me fait exister. Donc si je m'en coupe par l'orgueil, bah, je vais peut-être aller un peu moins bien. Et ce ne sera pas obligatoirement le repas de ce midi, on sera à l'origine. Aujourd'hui, Dieu, c'est la dernière roue du carrosse. Hein. Il n'est plus à l'origine de votre vie. La preuve, c'est qu'on est capable de faire des êtres de la tête aux pieds par nous-mêmes. Comment enfin nous glorifier de nos mérites comme s'ils venaient uniquement de nous, sans la grâce habituelle et la grâce actuelle? Nous serions absolument incapables du moindre acte méritoire. Et comme le dit saint Augustin, ça c'est beau, Dieu couronne ses dons quand il couronne nos mérites. Voilà. Donc, les biens qu'il nous donne, c'est pas pour, comme celui qui a peur et qui enterre son talent, hein, par peur qu'on lui demande des comptes. Les talents, les dons qui vous sont donnés, il ne faut pas en avoir peur. Oui, mais je vais tomber dans l'orgueil. Alors ça, c'est de l'orgueil. La peur. Hein? Le talent, les dons qui vous sont donnés doivent retourner à Dieu. Il faut les faire tirer profit, il faut les faire fructifier, il faut qu'ils servent hein, à glorifier Dieu. Voilà. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc l'unité d'esprit et du cœur, il faut une purification profonde, celle que nous nous imposons à nous-mêmes, mais celle-ci ne suffit pas. Il faut une purification passive. Pour la lumière des dons du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, qui fait tomber le bandeau de l'orgueil. Ça, il faut que ce soit bien, voilà, qui dessille les yeux. Nous montre le fond de fragilité qu'on a tous. Mais aujourd'hui, il ne faut surtout pas être faible. Hein, parce que du coup, on est un déchet. Hein. Mais là, je fais la différence entre péché et fragilité. Le péché est à confesser. La fragilité, elle est à bénir. Pour moi, c'est un lieu de bénédiction. Notre Sainte Mère, avant la fondation, était une femme forte. Elle l'est restée après, hein. Mais forte dans le sens où, voilà, elle commandait. Voilà, une femme puissante en esprit, hein, en santé, surtout en santé. Notre saint fondateur, hein, le ciel l'a choisi pour fonder un ordre qui va justement ouvrir à de faibles santé la vocation religieuse. Et elle le dira, donc, on va dire un an après la fondation, elle tombe gravement malade. Au point que notre saint fondateur supplie la Vierge Marie de la guérir, et notre saint, donc, là on ne savait vraiment pas ce que ça allait donner, notre saint fondateur, voilà, lui tout remis à la volonté de Dieu. Bah écoutez, on a commencé une fondation. Ça a pas l'air. Enfin, la fondatrice tombe malade, elle est prête à mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Lui était tout abandonné. Et notre sainte mère à ce moment-là dit, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Notre saint fondateur répond, bah ils vont se contenter. Dieu se contentera de notre essai. Et plus tard, notre sainte mère dira, heureusement qu'elle est tombée malade plus d'une fois. Qu'elle a senti sa fragilité dans la santé, parce qu'elle le dit, c'est elle qui le dit, la visitation n'aurait jamais été un ordre ouvert aux faibles santé, elle aurait ajouté des mortifications corporelles. Voilà. Quand on est fort dans sa santé, on a du mal à comprendre les faibles, donc c'est une grâce de se sentir faible, pour comprendre les autres. Et en plus, pourquoi? Pour s'appuyer sur Dieu. En général, il est la dernière roue du carrosse, le bon Dieu, quand on a dans notre vie au quotidien. C'est uniquement quand ça commence, quand le bateau commence à prendre l'eau, là on dit « Ah, Jésus vient à mon secours ». Mais tant que ça marche, hein, on fait la prière du matin, la prière du soir, ça roule, voilà, tout va bien. Et quand il y a un peu de vent, hein, qui fait tanguer le bateau, et ben là on supplie. Non, c'est pas comme ça la vie spirituelle, hein. C'est, il a la première place, on s'appuie sur lui. Donc moi je plains les gens qui sont forts, hein. Parce qu'en fait, compte, ils peuvent, et ça c'est le piège de l'orgueil, se suffire à eux-mêmes. Ils s'appuient sur eux, ça marche, on va dire, on est fort. Ce qu'on envisage de faire, on réussit à le faire. Quand on se lance à faire un travail et que tout de suite on est fatigué, hein, bah de fait, hein, il va falloir demander à Marie qu'elle nous aide. Hein. Et là, du coup, en esprit, on est bien obligé de dire des Ave Maria pour ne pas se décourager. Voyez la grâce de la fragilité. Voilà. Fragilité de misère qui subsiste en nous. Voilà. Je suis toujours à confesser les mêmes péchés. Je retombe toujours dans mon travers. Oh ma misère, qu'est-ce que j'en ai marre de ma misère. Voilà. Vous savez, le boulet dont on voudrait se débarrasser. Voilà. Comment ça se fait, j'ai beau faire des neuvaines, ça s'en va pas. Bah, bien sûr qu'il ne va pas vous l'enlever, c'est votre grâce. Bah oui, parce que c'est ça qui me tient petit. Voilà. Je suis toujours obligée de le répéter. Voilà. Vous voyez l'enjeu de la misère. Attention, aimer sa misère, c'est pas se complaire dans sa misère. Hein. C'est, je continue toujours de l'utiliser comme un tremplin pour demander à Dieu, hein, mais pas un truc dans lequel, bon ben voilà, je tombe toujours là-dedans, c'est bon, je m'en confesse plus, ça sert à rien, de toute façon je changerai jamais. Voilà, ça c'est de l'orgueil. Hein. Après, l'utilité de la l'adversaire et de l'humiliation qui finalement nous fait dire au Seigneur, je te remercie, ô mon Dieu, de m'avoir humilié, afin que j'apprenne tes préceptes. Voilà. Et là, je vais lire, je vais vous partager un passage, parce que j'ai peur de ne pas terminer, et ça, je voudrais vous partiez à Noël avec. C'est, moi, ça m'a été, j'ai trouvé ça magnifique. On a lu il y a quelques mois en chaire, donc au réfectoire, hein, quand on est au repas, mais en fait on se nourrit au niveau nourriture corporelle, et puis on prend aussi de la nourriture spirituelle, donc on lit des livres. Et on avait donc, on nous avait offert un livre sur l'autobiographie de Céline, la sœur, donc la carmélite, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et le titre du livre, c'est l'histoire d'un tison arraché du feu. Alors, elles ont une communion d'âme, hein, entre Céline, si vous connaissez un petit peu. Moi, je vais vous dire bien simplement, je me perds un peu avec toutes les sœurs Martin. Ouais, donc voilà. Mais en tout cas, Céline, elles avaient, comment dirais-je, une communion d'âme avec la petite Thérèse. Sauf que voilà, la petite Thérèse, voilà, sainte à 24 ans, enfin voilà, une course de géant, parce qu'elle aussi, elle a rien refusé à Jésus. Ça, c'est le père Marie-Eugène d'Enfant Jésus, hein, qui dit ça dans Je veux voir Dieu, qui dit voilà, sainte Thérèse, elle a eu cette course de géant, qu'elle n'a jamais rien refusé à Dieu. Je vous donne le tuyau, hein. Et du coup, par contre, Céline, elle la rentre beaucoup plus tard dans la vie religieuse, et moi, j'ai, à mon grand étonnement, son autobiographie, eh bien, elle brillait dans le monde. Donc, elle était très artiste, hein, donc elle peignait. Et voilà, une intelligente, voilà, une femme d'esprit, vraiment beaucoup de qualité. Hein, et elle arrive au Carmel, tout s'écroule. Voilà, hein, c'est la ruine intérieure. Le Seigneur va... Elle dit bien hein, que son chemin, ça va être la ruine, il va tout mettre par terre. Et à mon grand étonnement, elle va passer son temps, en somme, à pleurer à chaque fois qu'elle met le nez en terre. Voilà. Mais, aidée par sa petite sœur, la petite Thérèse, qui lui fera, de bonnes leçons, justement, sur l'humilité et surtout sur les humiliations. Et j'ai trouvé ça très éclairant par rapport à notre enseignement et surtout sur comment guérir hein, de cet orgueil. Et parce qu'il y a, comme on a dit, hein, les dons du Saint-Esprit qui vont nous y aider. Mais il y a aussi comment on peut être acteur de sa vie spirituelle, hein, de pas subir. Hein. Parce que ça, à Noël, vous allez avoir des occasions, hein, toutes ces rencontres familiales, on ne choisit pas toujours ses invités, etc., etc. Et même sans parler de ces périodes de fête, en général, Dieu nous aime tellement qu'il veut nous donner son don, qui est les deux plus chères vertus de son cœur, qui est l'humilité et la douceur, et là, il va vous donner des situations. Et voilà ce qu'elle raconte. Alors, je repris ma vie de disciple auprès de cette chère petite sainte, hélas, cette année devait être la dernière de notre union sur la terre. Elle l'employa à parachever son œuvre en me donnant toutes ses instructions concernant la voie d'enfance, la manière d'aller à Dieu et la pratique des vertus, spécialement l'humilité. Elle était heureuse de me voir lutter pied à pied avec des défauts qui me tenaient constamment dans l'humilité, car avec mon caractère spontané, il m'arrivait souvent des petites sorties avec les sœurs, sorties qui m'affligeaient beaucoup à cause de mon grand amour-propre. Je trouvais que mon extérieur était trompeur et que j'étais bien meilleure que je ne le paraissais. De là, un certain dépit de ne pas être jugée à ma juste valeur. Oui, c'est intéressant d'entendre ça dans la bouche d'une religieuse, hein. Quand je vous dis que ce n'est pas le voile qui nous ouvrira la porte du paradis, paraître imparfait. Paraître imparfaite aux yeux des créatures me semblait une montagne à avaler. Voilà. On peut se faire la même remarque. Hein, paraître imparfait devant mon mari, devant mes enfants, voilà, devant ma belle-fille, etc. Devant mes ouvriers. Alors ma petite sœur s'efforçait par ses pénétrantes instructions, agrémentées d'histoires typiques et tout à fait de circonstances, de me faire aimer l'opprobre dans lequel j'étais. Elle me disait que s'il n'y avait pas d'imperfection, sa petite Thérèse, hein, d'imperfection à tomber, il faudrait le faire exprès, oups, afin de s'exercer à l'humilité. Voilà, se donner des occasions pour s'exercer. Voilà. Elle me faisait trouver ma joie à me croire une toute petite âme que le bon Dieu est sans cesse obligé de soutenir parce qu'elle n'est que faiblesse et imperfection. Elle voulait de plus que j'arrive à désirer que les autres, voilà, s'aperçoivent de mes défauts. Nous, on les cache, en général, hein, avec une belle parole, voilà. Une pirouette, comme on dit ici. Afin qu'elle me méprise et me juge, toujours une religieuse sans vertu. Cet héroïsme m'enflammait de désir. Parce que voilà, hein, c'est pas parce qu'on chute, ouais, ça fait partie du chemin, ça, hein, de la vie spirituelle. C'est pas parce qu'on tombe que l'orgueilleux ne se relève pas. L'âme se relève et on continue. Et puis on ne se courrouce pas de d'être tombé. Hein. On rend grâce. Et je croyais déjà l'avoir atteint par mon admiration quand à l'occasion suivante, je me retrouvais aussi faible et imparfaite. C'était alors le cas de le faire mien. Mais une fois à ma portée, je ne lui trouvais plus tant de charme et le dépit succédait de nouveau à la tristesse, satisfaction de contenter ma nature par une parole vive. Mouvement qui, à mon grand regret, m'échappait encore quelquefois. Seulement il y a cette différence, c'est que je ne m'y affligeais plus. Voilà. Quand on s'en dépit plus, il n'est pas dit, hein, que le Seigneur enlève la difficulté, hein. Mais ou le trait de tempérament. Ça fait des années que je travaille dessus et c'est toujours là. Voilà. Mais du côté de Dieu, il nous sauve. Parce qu'on pourrait tomber dans l'orgueil si on ne l'avait pas. Ce trait de tempérament qui nous fait chuter dans la colère, l'impatience. Je demande pardon au bon Dieu, puis je me relève et je n'en cours que plus vite. Parce que ça allège. Si les créatures sont mal édifiées, j'en suis bien fâchée pour elles. Je prie à leur intention, c'est toute l'attention que je leur accorde. Il y a environ un an, là, ça c'était une sœur qui m'aime beaucoup, avait particulièrement prié pour moi pendant ma grande retraite. Quant au sortir de ce traitement spirituel propre à raviver mes forces morales, je tombais dès le premier choc. Alors, c'est sûr, ça fait de la peine, hein, quand on s'est pris 10 jours de solitude et on a pris sa résolution de ne pas dire une parole vive dès qu'on nous adressera la parole, et là, elle tombe. Cette sœur qui m'avait vue se mit à pleurer en disant « Je vois bien qu'elle ne se corrigera jamais. » Quant à moi, au premier abord, j'eus du chagrin de me retrouver ainsi toujours la même. Cependant, au lieu de rester hypnotisée devant le fait, j'embrassais intérieurement mon Jésus. Puis je pris mes jambes à mon cou pour attraper le temps perdu par cette chute. En réalité, j'en avais point perdu beaucoup, seulement celui de tomber et de me relever. Quant à celles qui pleuraient sur mon malheureux sort, elles auraient bien mieux fait de courir avec moi que de gâcher un temps précieux à se lamenter devant la place vide que je m'étais empressée de quitter. Et voilà, d'accepter, et ça c'est pour moi, en tout cas je trouve ça précieux dans la vie spirituelle, parce que c'est inévitable dans vos relations, accepter qu'on pense de moi l'inverse de ce que je suis. Ne pas se justifier pour faire la vérité. On m'a vu faire tel geste et je sais qu'on me juge et je ne vais pas me justifier. Et là, hein, c'est le fait d'entrer dans cette démarche, du coup, parce que l'orgueil, ça alourdit, hein, c'est clair, hein, ça empêche de courir dans la vie spirituelle. Hein. Eh bien, notre sœur, la Céline, le fait de... Ben voilà, elle a bien vu que la sœur était dépitée, mince, toutes les prières que je fais, ça sert à rien, elle va jamais changer. Eh bien, c'est accepter que l'autre pense mal de vous. Hein. Alors, elle le dit, j'ai baisé intérieurement mon Jésus. Pour qui on le fait ? On peut faire ça pour justement avoir l'orgueil de courir son chemin de la vie spirituelle. Il nous faut avoir l'humilité jusqu'au bout de plaire à Jésus. Hein, et on demande sa grâce en baisant intérieurement. On dit oui à l'humiliation, en somme. On ne l'a, et ça, subit pas. On l'a choisi. Vous me direz, de toute façon, je ne peux rien empêcher. Je ne peux pas prouver. Je peux pas faire. Oui, je ne peux pas prouver aux gens qui m'ont vu tomber. J'aime beaucoup cette histoire-là de saint fondateur qui dit « Ce n'est pas parce que vous avez vu une personne ivre un soir que la personne est alcoolique. » Et nous, souvent, alors on met cet exemple sur les différents travers de notre entourage, c'est pas parce qu'on va l'avoir chuté une fois qu'il nous faut l'enfermer dans son péché. Par contre, pour que la personne n'aura jamais les moyens de prouver l'inverse. Il ne faut surtout pas essayer de prouver l'inverse si on se tient au témoignage de Céline. Mais ce n'est pas possible de le vivre si on le subit. On sera obligatoirement dans l'abattement. Mais comme souvent j'entends, je n'ai pas le choix, on m'a vu. Non. Dans la vie spirituelle, on a toujours le choix. Il ne nous faut pas subir les situations. Ça changera rien. Si, ah ben c'est sûr que la personne va continuer de chuter, possible, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est, est-ce que je subis ou est-ce que je choisis la réalité? Et dans la réalité, mal comme le bien, c'est Jésus que je choisis. Si je crois que la providence fait même toute ma vie, c'est-à-dire tout ce que je vais vivre aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. Voyez? Donc, je ne subis pas la situation, je la choisis. Et ça, vous me direz ça à la sortie, quand on se reverra en janvier, parce que vous allez avoir des situations. Normalement, comme c'est Dieu que vous choisissez dans l'événement, ça change. La personne, elle est changée. Alors, petit à petit, elle aura, en somme, elle sera irradiée, parce que vous, intérieurement, vous aurez, on va dire, branché sur Jésus pour ne pas avoir un regard méchant, par exemple, ou accusateur, même si ça vous dégoûte. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Par votre attitude intérieure d'accepter la situation, vous permettez à la personne d'être visitée par la grâce. Que, bah, de toute façon, elle est comme ça, elle sera toujours comme ça. Voilà. Ou l'autre côté où c'est Céline, on me juge mal. Est-ce que j'accepte le jugement et du coup je baise Jésus intérieurement et du coup la personne est visitée par la grâce. Et c'est tout l'enjeu de notre société aujourd'hui, de la conversion des âmes sans dire le mot de Jésus, parce qu'on n'a plus le droit maintenant. Hein? Les grands-mères et les grands-pères, si vous voulez voir vos enfants, il faut arrêter de parler de Jésus. Voilà, on en pense ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai pas envie de. J'entends moi, j'ai envie de continuer de les voir, donc j'ai arrêté. Voilà. Ben, sa vie, il n'en tient qu'à vous. Hein. Continuez, je comprends que vous ne puissiez pas le dire, il ne faut pas le dire, parce que vous allez vous mettre tout le monde à dos. Mais par contre, vous allez faire beaucoup plus. Quand il va y avoir une situation d'humiliation, je vais me laisser humilier et je me branche sur Jésus. Jésus visite-les. Vous voyez, l'enjeu de subir ou de choisir. Quand on subit, on se ferme. Quand on dit oui, on s'ouvre et le Saint-Esprit passe. Voilà. L'attitude, elle est différente. Et en passant en vous, ben, elle passe dans le voisin. Elle passe dans le corps qu'est l'Église. Sinon, notre vie, nous, elle ne sert à rien. On ne sauve pas les âmes, on allait crier le nom de Jésus sur les places. Moi, c'est pas que ça ne me donne pas envie, hein, des fois. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'on touche les têtes, on ne touche pas les cœurs. Et les conversions ne se font pas avec des têtes, mais avec des cœurs. Jésus, il est venu changer les cœurs et pas les têtes. Hein? Donc, dans nos familles, on peut changer uniquement parce que il est en train de me marcher sur les pieds et je vais rien dire. Voilà. Et je dis, Jésus, je t'aime. Voilà. Mets-lui une bonne dose. Moi, je fais ça. Hein? Je fais couler le sang précieux. Mets-en une dose. Voilà. C'est ça, personne n'entend. Si, oui, ça me suffit. Vous voyez ? Tout l'enjeu. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous souhaite. Je pense que j'ai encore des. Oh oui, j'ai dépassé. Et du coup, je vous souhaite une de belles fêtes, hein, de Noël. Et voilà, de faire naître dans vos familles, dans vos cœurs, l'enfant Jésus par cette disposition. Parce que voilà, il a quand même choisi la paille, hein, tous les symboles de nos crèches. C'est quand même l'humilité par excellence. Hein, voilà, il s'est abaissé jusque-là à Dieu, hein, pour se rendre visible dans un tout petit être le plus fragile. Un enfant, c'est fragile, un nouveau-né. Et voilà, d'épouser tous ces signes qu'on aura dans la liturgie, hein, pour que les deux plus chères vertus du cœur de Jésus, eh bien, ce soit avec ces deux vertus que vous annoncez dans la vie spirituelle, pour être de zélés gardonneurs. La prochaine formation aura lieu. Alors, je suis en train de préparer ma petite feuille là, pour donner toutes les dates, mais je me suis dit, je vais vous communiquer la prochaine, c'est le 20 janvier. Et normalement, on aura donc ce que j'avais dû vous confier. Je vous avais confié mes démarches pour avoir un prédicateur. Il m'a dit oui. Donc ce sera un dominicain de l'oratoire de la Sainte Face de Tours, le père Christian-Marie Donnet, qui viendra nous parler de la Sainte Face. Alors vous allez me dire, on s'éloigne du cœur de Jésus. Mais non. C'est justement la visibilité, le visage, la face, la visibilité du cœur. Hein. Quand on fait mal à une personne, quand on arrive à viser le cœur d'une personne en lui faisant mal, il n'y a qu'à regarder le visage pour savoir. À l'expression, on sait si on a fait mal ou si on a fait l'inverse. Hein. Donc le visage dit de la souffrance ou de la joie d'une personne. Voilà. Et du coup, on le vivra avec la Sainte Face. Voilà. On termine avec nos invocations. On se confie à Marie aussi. À moins qu'il y ait des questions, pardon. Peut-être des questions. Voilà. En tout cas, merci. Et puis, belle avancée vers Noël. Parce que même si cette année, on a nos 4 dimanches, ce qui est normal, mais on n'a pas nos 4 semaines. Donc c'est sûr que ça va être court, mais bon, le Seigneur met des choses comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite-Marie, Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini, Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, bon retour, belle fin de journée. Merci.